François Bégaudeau, en cette rentrée littéraire, vous publiez L'amour. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu l'ouvrage ?
Effectivement, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je dirais que c'est l'histoire d'un couple qui dure 50 ans. C'est tout, j'avais pas d'autres projets. Donc je raconte leur rencontre, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont consolidé leur union et comment cette union a traversé 5 décennies, comme il arrive à des gens dans la vie, comme ça, qui sont des couples qui durent. Voilà, c'était mon idée.
On se demande toujours dans les fictions la part d'autobiographie. Où est la limite entre l'autobiographie et la fiction dans ce roman ?
Vous dites on se demande toujours, mais en fait, ça c'est un réflexe qui est très contemporain de se demander ça. Pendant très longtemps, en littérature, on ne s'est pas demandé ça. Quand Rousseau écrivait Les Confessions, bah là du coup c'était une autobiographie. Mais quand Balzac écrivait Illusion perdue, peu de gens se demandaient si c'était autobiographique. Il y a tellement de livres maintenant qui parlent à la première personne et qui parlent de choses très personnelles que c'est presque devenu une norme. Alors moi, dans mon cas, non, c'est une pure fiction. Mais après, une fiction, elle s'alimente toujours de la réalité. Donc moi, par exemple, là, je raconte des gens qui finissent leur vie vers 75 ans. Peut-être que je pourrais m'inspirer de mes parents, d'amis de mes parents, d'oncles, de tantes, de machin. Puis par ailleurs, ça se passe dans une région que je connais un petit peu. Donc, puis c'est une classe sociale que je connais bien, puisque c'est celle d'où je viens. Donc tout ça fait que il y a forcément des éléments de vie, mais c'est secondaire.
Peut-on parler de votre style d'écriture très particulier, fluide, avec un point de vue narrateur qui change beaucoup ?
Alors au début du livre, dans les 20 premières pages, je me suis amusé à passer du point de vue de Jeanne au point de vue de Jacques, sans que ça se voie. Donc il y a une alternance de point de vue, parce que je voulais qu'il y ait une sorte d'équité entre les deux. Plus généralement, en général, pour ce genre de narration, on appelle ça des narrations omniscientes. C'est quelqu'un qui est hors de l'histoire, le narrateur est hors de l'histoire, et en fait il a un point de vue un peu totalisant sur l'histoire. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de modulation de point de vue, mais moi j'aime bien dire que le point de vue de ce livre, c'est l'action elle-même. Le point de vue, c'est, comment dire, c'est les choses mêmes. C'est comme si les choses se racontaient elles-mêmes. C'est ça que j'ai voulu faire et qui pour moi un absolu du style, l'absolu inaccessible du style, c'est quand on a l'impression que les choses se racontent d'elles-mêmes.
On vous connaît beaucoup pour vos écrits et vos prises de position politiques. On ne peut pas dire que le roman est apolitique, tout est politique, mais il n'est pas explicitement politique. En quoi ce pas de côté ?
Non, c'est pas un pas de côté, parce que tous mes romans... Pour moi, le roman, c'est toujours un lieu où... Moi, je ne considère pas les romans comme des lieux d'expression. Je pense pas qu'un... En tout cas, moi, dans mes romans, je ne m'exprime pas. C'est pour ça que je parlais de livres où les choses semblent parler d'elles-mêmes. Alors évidemment, c'est toujours avec sa subjectivité qu'on écrit, et on n'est jamais neutre. Je sais pas du tout ce que je dis, mais pour moi, c'est pas un lieu d'expression d'opinion et d'idées, le roman. Pas du tout, du tout, du tout. L'essai pourrait être beaucoup davantage ça. Donc moi, je suis effectivement... On connaît quelques-unes de mes positions politiques à travers mes essais. Où là, effectivement, je suis plus explicite sur certains positionnements, sur certains repoussoirs. Voilà. Le roman, c'est jamais ça pour moi, le roman. Alors après, se rejoue toujours quelque chose de notre tempérament politique dans le roman quand même. Alors là, je dirais que dans L'amour, à mon avis, ce qui pourrait éventuellement se rapporter à quelques-uns de mes axiomes politiques, ce serait le matérialisme farouche du roman. C'est-à-dire, j'ai essayé vraiment de faire droit à la matérialité des vies de Jeanne et Jacques. De resituer leur histoire d'amour, ou en tout cas leur amour tout court, puisque c'est un amour globalement sans histoire, dans son étoffe matérielle, dans son écrin matériel. Et pour montrer qu'en fait, il y a de l'amour, mais cet amour, il est toujours articulé à des considérations qui sont des considérations pratico-pratiques, comme on dit maintenant, à savoir, quand on a un enfant, par exemple, c'est un grand moment métaphysique, c'est un grand moment psychologique, ça peut être un grand moment de bonheur, ça peut être aussi un grand moment de douleur, d'ailleurs, ça peut être vécu de mille manières, et c'est des choses qui me passionnent. D'ailleurs, j'en ai même fait un livre disons, ce qui peut arriver à des gens qui ont un enfant. Mais là, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était plutôt, qu'est-ce que c'est qu'avoir un enfant ? C'est devoir s'organiser autrement. Donc, Jeanne et Jacques se posent immédiatement la question de savoir, ouais, mais bon, où est-ce qu'on va le mettre, ce petit ? Et comment est-ce qu'on va s'en occuper ? Qui ira le chercher à l'école parce qu'on le travaille tous les deux, etc. Ça, c'était plutôt ça l'axe du livre. Donc là, je pense qu'on retrouve ma fibre, qu'on pourrait appeler grossièrement ma fibre sociale, dans cette option d'écriture.
Vous avez employé le terme histoire d'amour sans histoire. Est-ce que Jeanne et Jacques sont des personnes sans histoire ?
Ah non, je pense pas que ce soit des personnes sans histoire, ou alors je dirais comme vous et moi n'avons pas d'histoire. Moi je pense qu'en fait on n'a pas d'histoire dans nos vies, ça veut pas dire que nos vies soient plates, Moi, je pense qu'il y a plein... Par exemple, la routine, c'est un truc qui est par définition où il n'y a pas d'histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier ? Oh, il ne m'est rien arrivé, comme d'hab. Oui, mais le comme d'hab, il est passionnant. Voilà. En fait, c'est ça le parti pris de ce livre, c'est de dire le comme d'habitude est passionnant parce que la vie est passionnante dans toutes ses, dans toute sa facture, y compris la plus simple, la plus routinière. Moi, je trouve que... Une assiette, c'est passionnant. Une fourchette, c'est passionnant. Un décor domestique, c'est passionnant. Un jardin, c'est passionnant. Un enfant qui fait de la balançoire, c'est passionnant. Un père qui accompagne son gamin au foot, c'est passionnant. Ou qui l'accompagne à la danse, pour ne pas genrer les choses, c'est passionnant. Tout est passionnant. Et donc, à partir du moment où vous postulez que tout ça est passionnant, vous pouvez faire des livres où il n'y ait pas de pics événementiels caractérisés, genre ils ont perdu un enfant, ou ils se séparent à grand fracas, ou Jacques meurt prématurément, et Jeanne en conçoit une dépression profonde. J'avais pas besoin de ça. Parce que d'écrire un mariage, par exemple, un mariage où il se passe rien, sinon le mariage lui-même, moi je trouve les mariages, c'est passionnant un mariage, comment les gens se sont habillés, comment ils se sont endimanchés. Moi ça m'émeut beaucoup les mariages, quand les gens se font beaux, et surtout les mariages de prolo. Et donc voilà, bah moi j'ai décrit un mariage où il se passe rien, il y a juste un moment la pièce montée qui arrive, il y a une femme qui à un moment tombe de sa chaise, et il y a un moment un cousin qui se bat avec un autre cousin. Mais très très vite ils se réconcilient, on dit ouais je te paye un coup, allez c'est pas grave, mais ils sont, voilà c'est tout, c'est le... Ça serait pas par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire un mariage où vraiment il se passe un truc saillant ? Bah ça serait en plein mariage, un cousin se lève de table et dit « Papa, maintenant... Je dois le révéler à tout le monde. Tu venais dans mon lit toutes les nuits quand j'avais 12 ans. » Voilà, ça serait un truc où il se passe un événement. Ça serait Festen, pour prendre un film emblématique. Moi, c'est pas ça. Moi, ça va être plutôt... Il se passe pas grand-chose.
Vous aimez narrer les petites choses. Ça fait un peu Pérec, moi, je trouve. Deux questions, alors. Dans quelles conditions avez-vous écrit ce livre et quelles ont été vos inspirations ?
Alors les inspirations, je pense que tous les écrivains vous répondront toujours, écrivains ou écrivaines vous répondent toujours que les inspirations elles sont très largement inconscientes quand on écrit un livre. On écrit un livre avec tout ce dont on est fait, et parmi ce dont on est fait, il y a ce qu'on a vécu, il y a nos parents, il y a le pique-nique qu'on a fait un dimanche à Laval, et puis il y a les trucs qu'on a lus, et puis il y a les films qu'on a vus, et puis il y a les musiques qu'on a entendues. Mais tout ça, tous ces fantômes, tous ces trucs, toute cette matière, elle est là quand vous écrivez, et vous ne savez pas distinguer en fait. Qu'est-ce qui agit véritablement quand vous écrivez ? Alors peut-être qu'effectivement, dans un livre comme L'amour, peut-être qu'un plus que le pique-nique à Laval était présent sur mon épaule comme un petit perroquet gentil, Georges Perec, bien sûr, grand écrivain de l'infraordinaire. Mais d'autres gens, Flaubert, bien sûr, qui a et puis d'autres, Maupassant par moment, toute une littérature du XXe siècle qui était assez peu événementielle justement, antidramatique, adramatique, les romans de Beckett, enfin plein de choses. Et puis ma vie, ma mère, mon père, ma sœur, mon oncle, tous ces gens qui m'ont tellement ému, ma grand-mère qui a une petite vie comme ça, qui est passée hors des radars de la vie et de l'histoire et dont il ne reste aucune trace, si ce n'est dans ma mémoire, et dans la mémoire de quelques personnes. C'est toutes ces choses-là. Après, les conditions d'écriture, ça c'est très anecdotique, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est l'artisanat de l'écriture. Quelle a été ma grande difficulté dans ce livre ? Parce qu'écrire, c'est toujours se soumettre à des difficultés. Et la difficulté, c'était évidemment de faire passer 50 ans. Ça, c'était le seul truc véritablement difficile dans ce livre. Et je ne savais pas si j'en serais capable. Donc j'ai fait une première version, dont la seule question qui m'habitait, c'était même pas qui est Jeanne, qui est Jacques, qui sont ces gens. C'était, est-ce que j'arrive à te faire tenir 50 ans dans un livre relativement bref ? Et comment j'arrive à faire passer les années ? Et ça, c'est des petites. Il y a toute une ingénierie stylistique qui se met en place pour arriver à faire passer les années sans qu'on s'en rende compte, en fait. C'était ça. Une fois que ça, cette difficulté était surmontée, après, le livre n'était que. L'écriture ne fut que joie.
C'est marrant parce qu'on est assis à côté de Thomas Reverdy qui, du coup, a publié un livre où il narre une journée, 200 pages et une journée.
Une journée est une unité très connue en littérature. Il y a plein de livres qui se passent sur une journée.
Avant de commencer l'interview, vous m'avez dit que vous étiez venu 6 ou 7 fois aux correspondances. Qu'est-ce qui vous fait revenir ? Qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi Manosque ? Et est-ce qu'on vous reverra l'an prochain ?
D'abord, effectivement, il y a un petit peu un côté fidélité, parce qu'ils m'ont quand même invité dès mon premier roman. Et donc, je leur en sais gré. Et voilà. Puis par ailleurs, je connais un peu d'équipe. Je connais Olivier, je connais Arnaud qui publie chez Vertical. Voilà, donc c'est presque un festival familier, quoi. C'est un festival camarade. Il se trouve qu'en plus, c'est un festival où on se sent bien. Pourquoi ? Parce qu'on est bien accueillis. Parce qu'en général, les rencontres sont très bien organisées. Voilà, il y a une attention prêtée à la parole de l'auteur. Et que par ailleurs, c'est aussi un lieu où on peut écouter d'autres auteurs. Moi, j'aime bien aller écouter. Là, je vais écouter Nesh Chino tout à l'heure. Et puis, si je restais un peu plus longtemps, j'irai écouter d'autres gens. Voilà. Donc, on est bien parce que c'est, logistiquement, c'est très pratique. C'est très agréable. Donc, je pense que tous les gens qui sont invités à Manosque se précipitent pour y venir. Et puis, il y a un côté aussi. Alors, je dirais pas élitiste, pas du tout, parce que le mot serait mal. Mais la politique de Manosque, dès le début, ça a été d'inviter peu d'auteurs, mais bien. Alors qu'il y a d'autres festivals où il peut y avoir 200 auteurs invités, mais du coup, qu'on accueille bien et chaleureusement, mais auquel on prête un peu moins d'attention, il y a un côté un peu plus foire au livre. Ce qui par ailleurs peut m'amuser, mais c'est quand même... Disons qu'on parle un tout petit peu moins du contenu littéraire. J'ai l'impression que Manosque est réputé comme un festival où vraiment le livre est au centre. Le contenu des livres, la littérature... et ça, c'est pas le cas de tous les festivals, quoi. Mais je dis ça encore une fois avec la sympathie que je peux avoir pour pas mal de fêtes littéraires.
Cette année, vous devez nous quitter assez rapidement, donc vous ne pouvez pas rester sur tous les modèles de sieste, apéro, etc. Mais j'imagine que vous en avez déjà fait. Est-ce que vous voulez nous raconter ?
J'ai fait plein de choses à Manosque. J'ai fait des lectures aussi, parce que c'est aussi un truc intéressant qu'ils font ici. Ils proposent des fois des lectures, parfois accompagnées de musique. Il y a quand même une sophistication, je dirais, qui est intéressante. Et je me souviens avoir lu un des premiers livres que j'ai fait, c'était sur Mick Jagger. J'en ai un souvenir pas mal. On fait une lecture dans une belle salle d'ici. Puis j'ai dû faire une lecture d'Entre les murs aussi à une époque avec un ami. Je crois que les fois d'après, ça a été plutôt des interventions comme ça, où j'étais interrogé. Souvent, je suis interrogé, moi, par Yann Nicole, qui est un des modérateurs que j'aime beaucoup, voilà, qui m'est très fidèle et réciproquement. Donc, non, il y a ici...
On va vous laisser aller profiter de votre journée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux correspondances ?
Moi, je souhaite rien en correspondance. Je souhaite quelque chose à mon pays, la France. Savoir qu'Antoine Dupont puisse vraiment revenir... avant la fin du mondial, évidemment, c'est ça qui m'inquiète moi depuis hier, il n'y a que ça qui m'intéresse, hein, je veux dire, parce qu'en fait, je suis pas tant, mon problème, c'est pas tant que ça va desservir l'équipe, parce qu'évidemment, ça va la desservir, c'est que, en fait, je suis triste pour lui, parce que le type, ça fait 4 ans qu'il attend ça, c'est sa Coupe du Monde, et là, le type a une fracture de la mâchoire, c'est horrible, quoi.